Donc en fait, je vous invite sans plus tarder à prendre vos Bibles et à regarder le livre de Jonas, petit prophète, après Abdias, dans la Bible, avant le livre de Michée. Nous allons lire le premier chapitre, mais nous ne verrons ce matin en quelques minutes que l'introduction au livre, vu le temps qui nous est départi ce matin. Alors on lit en Jonas, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, qui peut être traduit aussi par Joppé. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Prions. Père Éternel, merci de nous placer devant ce texte ce matin, glorifie ton nom. Merci pour ce livre qui a été écrit, inspiré de Dieu, qui a bien de nombreuses leçons spirituelles à nous apprendre, et nous disons comme ton serviteur, parle Seigneur, ton serviteur écoute, donne-nous des cœurs attendris, et dans les jours et dimanches à venir, que nous puissions être attentifs à ce message que tu veux nous transmettre au travers de l'étude et la prédication de ta parole, du livre de Jonas. Seigneur, te prions de garder nos cœurs et nos pensées en toi, de nous aider à fixer les yeux sur toi, de te glorifier dans nos vies, afin que ta parole puisse être bénéfique à nos âmes et à nos cœurs, à nos intelligences. Renouvelle-nous, Seigneur, afin que tes pensées soient nos pensées, que ta volonté, Seigneur, soit notre volonté, que ta direction soit ce que nous voulons vivre et te glorifier. Merci, Seigneur, de préserver ces moments, ces quelques minutes ensemble dans le beau nom de Christ. Amen. En fait, le livre de Jonas est un livre intéressant qui est lu chaque année dans les synagogues le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon. À croire que quelque part, le peuple juif s'est repenti d'avoir failli de cette mission, mandat que Dieu pourtant leur avait donné d'être ses témoins. Dieu a appelé le peuple juif à être ses témoins. De même, le Seigneur nous appelle à être ses témoins, à faire de toutes les nations des disciples. Vous avez lu avec moi les premiers versets au chapitre 1 de livre de Jonas. Et voyez, Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Jonas va à Ninive. Non. Jonas va à Ninive. Non. Jonas va à Ninive. Non. Je n'irai pas à Ninive. Est-ce que ça vous arrive d'avoir osé vous opposer à l'ordre divin? En fait, c'est le seul prophète dans tout l'Ancien Testament qui décrit comme quelqu'un qui a refusé d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu a quand même accompli ses desseins? Oui, lisez le livre de Jonas attentivement, les 4 chapitres, et on voit que Dieu a finalement parlé à Jonas, malgré lui, est devenu un missionnaire parmi les païens. La question ici, je pense que le Seigneur nous laisse, est celle-ci. Quelles sont nos excuses pour ne pas évangéliser le monde? Quelles sont les excuses que nous avons pour ne pas évangéliser le monde? À Jonas, on avait de bonnes excuses, on va le voir dans un instant, mais il était prêt à ne pas entrer dans la volonté de Dieu à cause de sa propre volonté. Et parfois, nous, les enfants de Dieu, nous n'entrons pas dans le plan de Dieu qui est d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, parce que nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu, parce que nous avons des excuses. Quelles sont vos excuses pour ne pas annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Quelles sont nos excuses pour ne pas nous soumettre à l'ordre divin et le mandat que Jésus a laissé à la fin de sa vie, après qu'il a été ressuscité, ses dernières paroles, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à tout ce que je vous ai prescrit. » Quelles sont nos excuses? Est-ce que nous avons des excuses valables pour ne pas accomplir la volonté de Dieu? Alors nous allons regarder en quelques minutes l'introduction du livre et nous reprendrons l'exposition et le message du chapitre 1 plus tard. Le titre du livre, c'est Jonas. Que signifie Jonas? Jonas signifie colombe. Et la colombe, n'est-ce pas, c'est le symbole de quoi? De la paix, de la douceur. En fait, quelque part, Jonas voulait vivre certainement comme son nom, la paix, la douceur. Et voilà que Dieu l'invite à partir vers une terre lointaine, vers des gens qui sont connus pour leur cruauté. En fait, il s'appelle Jonas, une colombe, et c'est le fils d'Amittai. Amittai qui signifie « vérité ». C'est un fils de la vérité, mais on dirait que Jonas ne peut pas proclamer la vérité à tout le monde, même selon l'ordre de Dieu. Fils de la vérité, mais parfois qui garde la vérité un peu trop pour lui-même. Il est natif de Gath-Hépher, situé au nord de Nazareth, en Galilée. Ça fait penser que les pharisiens se trompaient lorsqu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de prophète qui venait de Galilée. En fait, Jonas était un prophète natif de Galilée. En fait, l'auteur de ce livre, qui est Jonas lui-même, écrit ce livre à la troisième personne. Quelque part, ces 4 chapitres décrivent les leçons que Jonas a apprises de la part de Dieu. Et on voit, je vais vous donner le plan un peu que j'ai finalement choisi. Le plan du livre, chapitre 1, c'est la fuite de la volonté de Dieu. Chapitre 2, la soumission à la volonté de Dieu. Chapitre 3, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Chapitre 4, le questionnement de la volonté de Dieu. En fait, Jonas était un prophète qui était connu du temps de Jéroboam. Alors je vous invite à tourner en 2 Rois. Prenez le temps de regarder 2 Rois. C'est le seul chapitre ou passage de la Bible où il est question du ministère du prophète Jonas. Il est écrit, bon, on va lire dans le contexte un petit peu, chapitre 2 Rois, chapitre 14 et verset 23. La quinzième année d'Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Prenne. Écoutez bien, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Dans Jonas, il nous est écrit qu'il avait proclamé la parole de l'Éternel. C'était un homme qui comprenait quand Dieu lui parlait et lui donnait un ordre. Et il avait très bien saisi l'ordre divin d'aller à Ninive. Jonas va à Ninive. Non. Je n'irai pas à Ninive. En fait, Jonas avait un ministère parmi les 10 tribus qui étaient situées au nord d'Israël. Il a prophétisé. Et puis, certainement, il est revenu de Ninive, a écrit son livre. Et on sait que Ninive s'est repenti, mais 150 années plus tard, cette ville sera détruite par les Babyloniens. En fait, du temps de Jonas, il y avait une certaine prospérité matérielle. Jéroboam II, ce roi sous lequel Jonas exerçait son ministère de prophète, règne, sous son règne, donc Jéroboam II, il y avait une prospérité matérielle et même les frontières s'étaient élargies, surtout au nord. Vous savez, Israël a toujours combattu pour ses frontières et avait conquis un peu plus au nord de territoire. Il semblait que du temps de Jéroboam, il y avait une certaine prospérité et même victoire sur des ennemis. Sauf que le peuple s'était appauvri spirituellement. Et le peuple qui s'appauvrit spirituellement se détourne de Dieu et va vers les idoles. L'idolâtrie dans le cœur du peuple d'Israël a provoqué l'éloignement d'Israël. Et Dieu a souvent châtié Israël par des ennemis qu'il a suscités jusqu'à disperser le peuple d'Israël comme un châtiment dû à sa désobéissance. Et à l'époque, il y avait eu plusieurs fois des invasions des Assyriens sur Israël. Et les Assyriens étaient connus comme un peuple cruel, barbare, qui torturait leurs ennemis, leurs prisonniers, et qui les tuait de différentes façons. On va en parler juste dans un instant. Et qui était connu comme un peuple des plus cruels et barbares et qui avaient envahi Israël et qui avaient fait des victimes en Israël, fait des prisonniers et déporté des hommes, des femmes et des enfants. En fait, le but du livre, le livre de Jonas, est de nous enseigner, je crois, au sujet de la miséricorde de Dieu. Dieu a des desseins miséricordieux. Et cette miséricorde ne vise pas simplement les enfants d'Abraham, le peuple juif, mais aussi les païens, les goy, comme on appelle, n'est-ce pas, les juifs, en parlant des païens, ceux qui sont ignorants de la loi d'Israël. Et Dieu avait un plan pour Israël, que son peuple soit des témoins de la vérité, d'un Dieu unique, et d'un Dieu saint, d'un Dieu créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. En fait, le message du livre est un message dans un contexte de nationalisme juif, j'arrive à le dire, n'est-ce pas ? Un message pour le peuple juif, un message divers, et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai noté ici. Tout d'abord, Dieu veut étendre sa miséricorde envers toutes les nations, y inclut les païens. Les juifs étant parfois persécutés, ont eu tendance à créer, n'est-ce pas, une communauté repliée sur elle-même et voulant se protéger, mais parfois sont devenus trop centrés sur eux et ont oublié ce mandat de gagner les nations à la vérité, à ce Dieu unique, à faire connaître ce Dieu unique. Dieu veut accorder la repentance à tous les peuples, à toutes ses créatures. Même si le peuple juif était celui qui détenait la vérité, qui avait reçu la loi, il devrait partager la vérité et la porter jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxièmement, le message qui ressort de ce livre, c'est que malgré la désobéissance de son serviteur Jonas, Dieu accomplit son dessein qui est de vouloir accorder la repentance à toute une ville, une grande ville qui est celle de Ninive. Malgré la désobéissance de ses serviteurs et malgré parfois qu'ils sont infidèles à leur vocation, Dieu accomplit ses desseins. Et nous devons louer le Seigneur de sa fidélité, parce que Dieu, si vous lisez le livre, certainement vous le connaissez, Jonas a été récupéré malgré lui dans le ventre d'un poisson pour être rejeté à l'endroit même où il avait refusé de partir dans la bonne direction pour aller finalement annoncer la repentance à toute une ville et voir la ville se repentir de ses propres yeux. Dieu reste souverain dans ses plans et dans l'exercice de sa miséricorde malgré l'infidélité de ses serviteurs et parfois, je crois, l'infidélité de nous, les enfants de Dieu. Heureusement que Dieu est Dieu. Heureusement que la puissance de Dieu dépasse l'infidélité de ses enfants pour le salut des âmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas nous utiliser. Troisièmement, la réponse de Ninive, un seul prophète envoyé dans une ville païenne, amène toute une ville à se repentir. Alors qu'Israël ont été visités par tellement de prophètes qu'ils ont parfois d'ailleurs persécuté sans se repentir. On dirait que parfois le cœur des païens est plus attendri que ceux qui pourtant devraient connaître la loi et connaître celui qui est l'auteur de la loi, Dieu lui-même. Et puis, il y a dans ce livre de Jonas l'exercice du pardon de Dieu. Dieu non seulement pardonne à Jonas qui va prier au sein de ce poisson, n'est-ce pas ? On y reviendra. Mais aussi il pardonne aux matelots qui invoquent Dieu parce qu'ils vont jeter à la mer, donc un homicide tout à fait volontaire, un homme à la mer en espérant que la mer s'apaise. Et finalement il leur pardonne. Et puis Dieu pardonne aussi à tout un peuple. Il y a déjà dans ce livre de Jonas, au travers des lignes, l'exercice non seulement de la miséricorde de Dieu, mais du pardon de Dieu. Et cinquièmement, il me semble qu'il y a enfin une dernière leçon à tirer, c'est que Dieu est maître de l'histoire. Il est maître de celle d'Israël, il est maître de celle de la Syrie, il est maître de ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Dieu est celui qui est maître de l'histoire. On lit le livre de Daniel et on voit que c'est Dieu qui fait l'histoire. Ah, Dieu utilise les hommes pour faire l'histoire, mais Dieu reste maître de l'histoire et des temps. Et nous sommes dans des temps particuliers aujourd'hui, le monde bouge et nous sommes en train de vivre des moments historiques, au moins pour l'Afrique du Nord, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, mais peut-être que la reconstitution de l'Empire romain et du bassin méditerranéen est en train de se faire sous nos yeux, qui va permettre, n'est-ce pas, au règne de l'Antichrist de s'exercer, la reconstitution de l'Empire romain. Dieu sait, Dieu reste souverain. Et moi, ça me rassure, parce que Dieu est maître de ma vie. Dieu est souverain de ma vie. C'est dur à accepter parfois de voir que Dieu dirige, c'est lui qui ouvre et qui ferme les portes, mais Dieu reste souverain, parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alors, merci Seigneur, parce qu'il semble qu'Israël lit le livre de Jonas à chaque fête de Yom Kippour, à croire qu'ils comprennent que l'expiation célébrée s'étend aussi envers les païens. Et Jonas a refusé d'aller accomplir une mission peut-être dangereuse. En tout cas, il ne voulait pas penser que Dieu pouvait pardonner à Ninive. Et vous savez, ça fait penser certainement que Jonas, on va le voir, est un type de Jésus-Christ par le fait qu'il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Mais lui, Jésus-Christ, a accepté d'être l'opprobre des hommes et d'être torturé jusqu'à une croix afin de sauver l'humanité. Jonas refusait de partir pour le salut d'une ville, mais Christ, lui, n'a pas refusé de quitter son ciel, d'aller jusqu'à la croix afin de sauver le monde perdu par amour de Dieu le Père et par amour de ses créatures. En fait, il y a plusieurs vérités typiques, qu'on appelle, qui se trouvent dans ce livre. Alors, je l'ai déjà mentionné, Ninive est une ville qui se repent à la prédication d'un seul prophète, tandis qu'Israël demeure souvent insensible à la prédication de nombreux prophètes qui pourtant lui sont envoyés. Deuxièmement, Jonas est un Israélite, un serviteur de Dieu, qui est envoyé pour prêcher aux gentils. Et cela montre que Dieu veut utiliser son peuple élu pour le salut des gentils, pour les amener à la repentance et à la foi. Cela confirme le mandat que Dieu avait donné à Israël, qui devrait être ses témoins parmi les nations dans lesquelles Israël serait ou vivrait, et d'apporter la connaissance de Dieu. J'aimerais dire que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs cas où des Juifs, oui, le peuple d'Israël, a été amené à témoigner et à voir des miracles s'accomplir. Je pense à Élie envers la femme de Sarepta, Élisée envers Naaman le Syrien, Jésus envers la Samaritaine, la femme syro-phénicienne, Pierre envers Corneille. Ce qui est intéressant, bon, j'y reviendrai parce que j'anticipe un peu quand même le texte, mais ce qui est intéressant, c'est que Jonas est allé, il nous est écrit dans nos Bibles, à Jaffa, qui est en fait Jopé, et il a refusé de partir à l'endroit même où il aurait dû partir vers les païens pour évangéliser. Il est parti dans la direction opposée, à Jopé. Ça vous rappelle rien? Un certain Pierre qui se tenait là et qui refusait de manger. Il a eu une vision sur une nappe, il y avait des animaux, et Pierre, et le Seigneur lui dit « mange », et Pierre dit « non, je n'ai rien touché à ce qui est impur ». Il a fallu toute une vision pour amener Pierre, malgré sa culture nationaliste juive et esprit religieux fermé, je dirais, à s'ouvrir vers le monde païen et à croire que Dieu voulait sauver les païens. Vous savez, parfois, face au monde perdu, nous sommes aveugles, nous avons la même réaction, nous avons des préjugés, nous arrêtons aux apparences et nous croyons qu'il serait peut-être difficile de parler à telle ou telle personne. Nous croyons que même c'est impossible. Oui, c'est impossible qu'une âme se convertisse. Mais à Dieu, tout est possible. Jésus a lui aussi eu des difficultés, le jeune homme riche qui est venu. N'est-ce pas? Il est parti tout triste parce qu'il n'a pas voulu abandonner ses biens, parce qu'en fait, il préférait ses biens, sa réputation, son instruction à Jésus-Christ lui-même. Alors les disciples ont dit, mais qui peut être sauvé? Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors qui peut être sauvé? Jésus a dit, à Dieu, rien n'est impossible. Le salut vient de Dieu, c'est Dieu qui sauve, mais il veut utiliser des hommes et des femmes comme vous, comme moi, bien faibles, pour proclamer l'évangile, afin que des âmes soient sauvées. Pierre a dû avoir cette vision particulière pour être amené à penser que Dieu pouvait sauver les païens. Paul aussi a eu cette vision sur le chemin de Damas. Qui es-tu pour me persécuter, pour te regimber contre les aiguillons? Et Paul, lorsqu'il a recouvert la vue, Dieu l'a appelé à être l'évangéliste, le missionnaire parmi les païens, pour qu'il passe de la puissance de Satan, celle de Dieu, des ténèbres à la lumière. Et vous savez combien Paul a souffert de la part des païens par rapport à cette vision et ce mandat que Dieu lui a donné. Et puis il y a Jonas aussi, enfin type d'Israël. J'ose dire ça parce qu'il me semble que ça fait penser que dans leur esprit, devenu parfois sectaire, Israël a oublié ou a ce mandat d'être des témoins dans le monde entier. Eh bien, un jour, Jonas, c'est vrai, a été quelque part un peu bousculé pour arriver enfin à être missionnaire selon le mandat de Dieu. On sait qu'à la fin des temps, un tiers d'Israël va se convertir, et ils vont appeler le Seigneur, n'est-ce pas? Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, nous dit la Bible. Et ils vont devenir aussi des témoins. Dans l'Apocalypse, il y a 144 000 juifs qui vont des 12 tribus qui vont devenir des témoins de Jésus-Christ à la fin des temps. Et bien sûr, Jonas est le type de Jésus-Christ. On le trouve en Matthieu 12, 40. Si vous tournez dans vos Bibles, en Matthieu 12, 40, c'est Jésus lui-même qui a confirmé la véracité du récit de Jonas, puisqu'il dit ceci, en Matthieu 12, 40, peut-être verset 38, lisons dans le contexte. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est incroyable la façon avec laquelle Dieu, dans sa souveraineté, n'est-ce pas, enseigne les hommes et puis se révèle et prend le cas de Jonas comme un type finalement de ce que Jésus-Christ va vivre, puisqu'étant crucifié, puis étant 3 jours et 3 nuits dans l'abîme avant d'être ressuscité. Le thème du livre, alors on a vu les différents types ici au sujet de Ninive, Jonas, et puis dire que ce livre a été considéré souvent comme un traité de mission pour les païens. Je vous dis alors ce que j'ai lu quelque part. Il illustre en effet la culpabilité et la perdition du monde sans Dieu, l'amour du Seigneur pour toutes ses créatures, son appel, l'offre de son salut, l'annonce de son jugement, le rôle du messager du Seigneur, les motifs et les conséquences de sa désobéissance, le renouvellement possible de sa vocation, la repentance, la délivrance d'un peuple entier, la démonstration enfin que les derniers peuvent devenir les premiers. Bon, j'ai trouvé ça intéressant, de cet aspect du livre de Jonas. Enfin, quel est le titre, ou le thème, excusez, du livre de Jonas? Alors moi j'ai choisi la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Dieu a des plans pour sauver, et c'est à cause de sa miséricorde. Et on voit dans ce livre que Dieu exerce sa miséricorde de la façon suivante. D'abord, il appelle un homme, un prophète, pour aller proclamer la repentance. Et de même, Dieu nous appelle à proclamer la repentance et le salut. Deuxièmement, il arrête son prophète désobéissant par toute espèce de miracle. En fait, je ne sais pas si on a le temps, peut-être pas à l'instant, mais il y a 10 miracles dans le livre de Jonas. Et tous ces miracles sont des miracles dus à la miséricorde de Dieu. Il sauve les marins. Vous savez que Jonas entraîne finalement, dû à sa désobéissance, un châtiment sur le bateau sur lequel il se trouve, et Dieu, par miséricorde, sauve les païens et même se fait connaître à eux. Et puis il sauve Jonas dans le poisson, et puis il accorde la repentance à Ninive. Vous ne trouvez pas parfois que nous, les êtres humains, on est bien compliqués, et qu'on, sans se rendre compte, on est des obstacles même au dessein de Dieu? Qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Qui sommes-nous pour contester la miséricorde de Dieu et sa volonté? Nous verrons un autre dimanche le chapitre 1, et nous regarderons du verset 1 au verset 16, et puis peut-être le verset 1, chapitre 2. Nous regarderons le mandat de Jonas, le sauve qui peut de Jonas, et la poursuite de Jonas. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Père Céleste, merci d'avoir permis par ces quelques minutes l'introduction au livre de Jonas. Donne-nous d'être attentifs à ce que tu veux nous dire, peut-être à lire et méditer soi-même durant les semaines à venir ce livre, et puis à chercher ta face pour savoir ce que tu as à nous enseigner. Merci Seigneur de tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans nos vies. Et nous te remercions parce que toi-même tu nous as laissé un mandat d'aller de fait de toutes les nations des disciples. Merci de ce que c'est dans ta volonté de sauver, car cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous te rendons grâce ce matin, Père éternel, nous te bénissons et nous t'adorons. Amen.